c'est un grand honneur déjà de pouvoir participer à toute cette aventure, comme a nommé justement Éliane Lavaille, et d'être aussi dans cette belle maison pour pouvoir partager un peu de mon parcours avec vous. La thématique qu'on a choisie de départ, c'est une thématique bien précise liée à mon rôle de formateur au conservatoire, hein, le même rôle qu'Éliane a développé pendant des années dans cet établissement, former des chefs de chœur, mais je travaille également avec la formation de chefs qui se dirigent plus tard pour la direction d'ensembles instrumentaux et un peu direction d'orchestre aussi, dans des situations ponctuelles. Donc j'ai souhaité parler de la formation à la direction dans un sens large, sachant que la direction de chœur a évidemment ses spécificités, mais la direction instrumentale aussi, mais il y a un tronc commun. Et moi, je pense qu'on doit œuvrer aujourd'hui, on doit travailler dans le sens de former des gens compétents jusqu'au plus loin possible dans tous les domaines de la direction. Et évidemment, à un moment donné, il y a des spécialisations qui vont s'imposer, non simplement dans le domaine de la voix ou des instruments, mais aussi dans le domaine stylistique. Comme vous le savez, le chef qui se consacre à la musique baroque, à la musique contemporaine, au lyrique, à l'oratorio, il y a plusieurs débouchés possibles. Peut-être quelques mots au sujet de mon parcours. Comme disait Éliane, j'ai commencé la musique assez tôt, comme chanteur et flûtiste à l'école jésuite au Brésil, à Rio, d'où je viens. Et à l'arrivée de mes 18 ans, même avant, c'était un peu conflictuel, on va dire, à la maison, mais même avant, j'étais déjà persuadé que ce serait la musique pour moi. Mon père voulait que je sois diplomate, il m'avait préparé pour faire la diplomatie. Et ça, c'est vrai que ça sert.
Il faut beaucoup de diplomatie aussi en musique.
Je ne regrette pas. Hein. Donc pour les langues, etc., c'était une facilité aussi pour moi, parce que ça faisait partie de ce qu'il souhaitait que je fasse. Mais quand je l'ai révélé, je n'ai pas de musicien dans la famille, en tout cas connu. J'ai un arrière-grand-père qui était mandoliniste en Valence. Donc les Lopez, à l'origine, c'était avec Z en Espagne. Donc j'ai du côté paternel l'Espagne et du côté maternel Baptiste des Italiens du nord d'Italie, Treviso, Veneto, Villafranca di Verona. Donc c'est déjà un mélange comme au Brésil. Hein. Les passeports brésiliens, c'est un des passeports les plus recherchés dans les marchés noirs, parce que n'importe quel bandit peut passer par un Brésilien, parce que les Chinois, tous les visages existent au Brésil. Voilà, donc je viens d'un mélange d'Italie, Espagne, et évidemment avec une forte racine afro-brésilienne, avec des ancêtres aussi autochtones indiens, d'origine indigène brésilienne, et aussi de la part de ma grand-mère maternelle, un peu de sang africain. Donc c'est un grand mélange culturel qui m'a beaucoup séduit. J'ai été élevé dans une sorte de culture unique, école jésuite, etc. Et dès que je suis arrivé à la maturité, je me suis vraiment penché vers ces différentes racines, et notamment à cause de la musique qui est assez fascinante au Brésil, avec ses multiples sources. Et ça fait partie des choses que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui, également ici, au jour d'aujourd'hui. Après, mon parcours a été bien évident, celui de me former en musique comme j'ai pu au Brésil, en faisant les études universitaires. On n'a pas de conservatoire au Brésil à l'époque, en tout cas on n'avait pas. Donc c'était l'équivalent de Performing Arts aux États-Unis. Ce sont des écoles universitaires qui forment les étudiants instrumentistes, chefs, etc. Ce n'est pas comme la musicologie en France. L'université ici, c'est la musicologie. Hein. Et une fois fini mes études, j'ai réussi à obtenir une bourse d'études qui n'existe plus malheureusement, de l'ancienne AFA, l'Action française d'action artistique, qui m'a permis de faire 5 ans d'un cursus, fait un peu à la carte pour moi, entre le CNSM de Paris et le CNSM de Lyon, avec une double formation en direction de chœur et en direction d'orchestre, notamment pour la musique du XXe siècle qui m'intéressait particulièrement. Donc c'était un cycle de perfectionnement qui a été couplé avec un cycle de formation normal dans la classe de Bernard Tétu à Lyon et avec Janos Fust à Paris et quelques chefs invités qui ont croisé mon chemin. Voilà, donc j'ai terminé mes études à Lyon, je me suis installé à Lyon, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai monté un ensemble professionnel qui s'appelait Gondwana à Lyon, qui a duré une quinzaine d'années. Je suis retourné au Brésil pour une mission de 3 ans pour la construction de la Cité de la Musique de Rio, qui est un très très beau bâtiment. C'était Christian de Portzamparc, le même qui a fait la Cité de la Musique de Paris, qui l'a projeté. Donc j'étais conseiller pédagogique, et en même temps je travaillais sur la programmation, mais vous savez, au Brésil, les choses sont très compliquées. Donc, c'était censé être inauguré en 3 ans. Ça a mis 10 ans de retard. Donc, je rentre en France avec ma famille. Et c'est là où on m'a parlé du poste. Eliane venait de quitter le poste. Il y avait 2 ans. Il y avait déjà 2 ou 3 personnes qui avaient essayé de mettre les choses en place. Et Laetitia Casabianca, que vous devez connaître, qui est à Bayonne, on était en jury au CNSM, elle m'a dit « Pourquoi tu ne vas pas voir à Bordeaux si tu cherches quelque chose ?» Et finalement, cette belle histoire a commencé. Voilà. Pour résumer un peu le parcours. Après, c'est très important aussi de savoir qu'au Brésil, nous avons une vision de la musique qui est un peu comme aux États-Unis, le patrimoine culturel est moins lourd, si vous voulez, moins ancré dans des traditions cloisonnées, en fait. Donc, c'est beaucoup plus facile d'imaginer un Bernstein ou un Gershwin ou un Piazzolla ou un Villa-Lobos en Amérique du Sud qu'en Europe. Il y a quand même une tradition de travailler sur un seul registre musical. On a des exceptions, mais c'est beaucoup moins courant, en fait. Hein. La spécialisation est quelque chose de très forte en France. Et ça, c'est une des choses qui, en arrivant ici, m'a beaucoup surpris parce que je pense que beaucoup de musiciens qui viennent des États-Unis ressentent la même chose aussi. C'est très, très courant qu'un clarinettiste classique soit un jazzman aussi, soit capable d'improviser, soit capable de passer d'un monde à l'autre. Et déjà, au Concertant Supérieur, je sentais comme les choses étaient prévues. C'était un tunnel qui aboutissait quelque part. Hein. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la formation. Et je pense qu'un instrumentiste, quand il rentre dans un Concertant Supérieur, il sait déjà qu'il va être formé pour l'orchestre. Maintenant, plus récemment, il y a l'ouverture sur la musique de chambre d'une manière plus importante, la musique contemporaine. Mais quand même, l'orchestre a un but très clair. Et pour la direction de chœur en particulier, le rôle de chef de chœur d'opéra est quand même un poste, une débouchée qui était très visée dans les premiers règlements pédagogiques de la classe supérieure de Lyon, en fait. C'était une des débouchées plus importantes. C'était la préparation pour travailler comme chef de chœur d'opéra. Et je venais d'un pays où la pratique des ensembles vocaux amateurs ou professionnels de petite formation, comme un madrigal ou un ensemble vocal, est très, très répandue. Et j'étais en quête de ça, plus que de me consacrer au lyrique, même si je l'ai fait beaucoup, comme directeur aussi, comme chef d'orchestre aussi. Mais j'ai ressenti un peu cette difficulté de naviguer d'un domaine à l'autre sans faire trop de vagues, en fait. La difficulté, c'est toujours de pouvoir expliquer aux gens que le plus on est nourri de matières différentes, le plus on peut sécréter une musique originale, un produit final qui est marqué par différentes manières de penser. J'ai beaucoup apprécié la présentation d'Eliane, dire non simplement les musiques du Brésil, les musiques de France, les musiques d'Amérique du Sud, les musiques de France, mais les pensées musicales, le faire musical de ces deux pays. Parce que je pense que c'est ça essentiellement la différence. Les musiques en elles-mêmes sont le résultat d'une manière de penser, de la fonction que la musique a dans le quotidien de chacun dans un pays où beaucoup de gens sont complètement illettrés musicalement. Ils sont capables de faire des choses fantastiques avec le rythme, avec la voix, et les musiques sont encore très, très présentes dans les rituels quotidiens, comme vous avez aussi en France ou en Italie, dans la Méditerranée, etc. Voilà, donc cet aspect pour moi est fondamental et j'essaye de croiser, de rapprocher ces deux mondes. Sur mon site internet, la première page, je ne sais pas si je l'ai laissé par cœur, mais au carrefour de mes cultures, j'ai appris la musique et les mouvements de deux mondes. Mon travail consiste à créer des ponts, établir des passerelles pour que tout ce que j'aime continue de se transformer, en fait. Ça, c'est une journaliste qui m'a demandé de résumer mon travail à la Biennale de la Danse de Lyon en 2002 pour un spectacle que je faisais. Et j'ai pondu ça, et je pense que ça correspond beaucoup à ce que je cherche à faire. Et dans mon travail d'enseignement de la direction, j'essaye de rapprocher ce monde, effectivement. Parce que là, évidemment, je pense, comme je vous ai dit, que la direction d'ensembles, avec un S, hein, comme un tout, elle devrait aller vers un tronc commun qui va beaucoup plus loin qu'actuellement. Je pense qu'on doit apprendre à diriger Et après, on va voir si c'est des voix, on va voir si ce sont des instruments, un par instrument, si ce sont des orchestres symphoniques, si ce sont des orchestres à cordes. Je pense que la bifurcation entre les deux pratiques, ou les trois pratiques, doit être plus tardive que ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le point de vue d'Eliane là-dessus.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Eduardo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, pendant très longtemps, le chant choral, la direction de chœur, était complètement amateur, hormis les chefs de chœur, comme tu disais tout à l'heure, d'opéra. Donc, dans les théâtres lyriques, là, il y avait des chefs de chœur professionnels, mais qui étaient donc uniquement orientés vers les opéras. Et il y avait quelques chefs de chœur de la radio, dans les villes où il y avait une radio. Maintenant, il n'y a plus qu'à Paris, où il y a un chœur de la radio. Et quelques ensembles qui, maintenant, depuis quelques décennies, se sont créés, des petits ensembles, où on voit fleurir, effectivement, maintenant, des petits ensembles. Mais l'école de direction de chœur française est extrêmement récente. Et donc, au départ, les candidats, si j'ose dire, étaient surtout des amateurs, avant que nous puissions travailler avec des élèves du conservatoire, vraiment jeunes, formés pour se former directement à la direction. Et je suis tout à fait d'accord avec Eduardo. Moi-même, ayant commencé plutôt par la direction d'orchestre avant de faire vraiment de la direction de chœur, j'ai toujours eu le souci aussi d'avoir d'abord ce tronc commun, de diriger et qu'on puisse s'adresser aussi bien à des instrumentistes, d'être clair dans son geste pour s'adresser aussi bien à des instrumentistes qu'à des chanteurs. Alors qu'effectivement, les chefs de chœur amateurs s'adressent à leur cœur, ils s'adressaient avec leurs moyens qui venaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire empiriques, qui n'étaient pas forcément codifiés et chacun, leur cœur les comprenait. Mais s'ils devaient diriger d'autres groupes, d'autres chorales ou un orchestre, là, c'était le grand flou. Alors que notre démarche, évidemment, est de pouvoir s'adresser d'une manière technique, sûre et solide à tous.
Évidemment que cette question, elle passe par un travail technique et pour ceux qui n'ont jamais... Vous voyez, par exemple, ce sont des schémas de battus, tout simplement, qui sont des exercices hebdomadaires que je fais avec mes élèves pour les apprendre un code qui soit lisible en Chine, en Afrique, avec des orchestres, avec des chœurs, avec des ensembles de musique contemporaine. Il y a un seul code qui fonctionne, qui est un code qui a été établi récemment. C'est une école quand même récente d'une manière générale. Et on voit qu'il y a des manières de faire encore très différentes. Mais on doit viser une lisibilité du bras qui soit capable de traverser toutes les situations. C'est ça qui permet à un chef bien formé d'être un chef invité, de pouvoir diriger différents ensembles. Et là, c'est un souci qui est relativement récent dans la question de l'enseignement. Mais ça va tout à fait dans le sens de ce que Liane disait. Là, je viens de faire 2 jours de jury pour la classe de direction d'orchestre du conservatoire de Roberto Gatto. Et c'était très, très intéressant parce qu'on voit comme les élèves n'ont pas de possibilité de diriger ailleurs qu'au conservatoire. C'est très difficile pour eux de mettre la main à la pâte avec un vrai symphonique parce que ça demande de réunir tous ces instrumentistes, tous ces musiciens. Et une des choses qui a des avantages et des inconvénients, c'est la facilité avec laquelle on peut monter un chœur parce que tout le monde a sa voix et des enfants aux plus âgés, on peut se réunir pour chanter. C'était un livre que j'aime beaucoup de James Michener qui s'appelle Iberia, où quand il arrive en Catalogne, il dit « Quand il y a un Catalan seul, il fait un bureau de tabac ou il fait quelque chose comme ça. Quand il y a 2, ils font un jeu de cartes. Quand il y a 3, ils font déjà une chorale. » Et c'est effectivement dans ces pays qui ont été un peu sinistrés par rapport à la langue, comme même le Pays Basque, etc., où le franco a interdit la langue. Donc il y a beaucoup de pratiques amateurs qui sont mises en place, de théâtre aussi, pour maintenir la langue vivante. Donc c'est un exemple, une anecdote, pour dire que c'est très simple de monter une polyphonie à 3 voix déjà. Mais cela a contribué aussi à une image d'amateurisme, de beaucoup de chœurs qui se forment comme ça pour le plaisir, ce qui est très très bien, qui ne devrait pas être un problème. J'insère ici une anecdote très importante dans ma vie. Je vous ai dit que je me suis intéressé par mes racines et bon, les racines de la culture de mon pays. Et je suis passé du temps chez les Indiens, au Paraná, en Amazonie, pour faire des collectages de leur musique. Et après, j'ai fait des disques, j'ai composé de la musique là-dessus. Et je me souviens d'une fois, on a fait un bâton de parole avec les Indiens, bien à leur manière, où il y a un objet qui passe de main en main, et la seule personne qui peut parler, c'est celui qui a l'objet. Hein. Les autres se taisent. Les hommes politiques devaient faire ça à la télé. Mais de toute manière, à un moment donné, quand le maraca, l'objet sacré, est arrivé dans la main du chaman, du pagé, il m'a posé la question, comment ça se fait que chez vous, il y a des gens qui chantent et des gens qui ne chantent pas? Il voulait le comprendre vraiment sincèrement. Et danser aussi. Comment il y a des gens qui dansent et des gens qui ne dansent pas? Comme si pour eux, c'était une fonction vitale du même ordre que manger, dormir. Donc effectivement, le souci artistique, le souci de la qualité, il est secondaire. C'est une musique fonctionnelle qu'ils font. Hein. Ils font ça pour travailler, pour prier, pour communiquer avec les ancêtres, tout ce que vous voulez. Et après, il y a cette limite qui s'impose à un moment donné quand on devient un objet d'art, quand on va faire un concert, un disque, un CD, toute la qualité est chamboulée, tous les critères de perfection vont rentrer en ligne de compte. Mais la pulsion initiale de chanter est quand même, dans l'inconscient collectif du peuple brésilien, une pulsion vitale. Et tout le monde chante, tout le monde doit chanter, tout le monde doit jouer de la percussion, tout le monde doit faire des choses de ce type. Donc pour ne pas me perdre là-dedans, ce que je veux dire, c'est que si on applique ça à une large échelle, on va dire, un instrumentiste, pour qu'il puisse faire partie d'un orchestre, il lui faut 3 ans, 4 ans de pratique, déjà. Hein. Et on peut monter un chœur avec des gens qui n'ont jamais chanté, ça va sonner comme ça va sonner, mais ça sera un chœur, de toute manière. Et ça a servi. Donc, il a ses côtés positifs, ses côtés, fédérateurs, de catharsis, de socialisant, tout ce que vous voulez, hein, occupationnel, mais ça a aussi contribué à la diffusion d'une grande quantité de groupes qui, musicalement, avaient une qualité très, très faible, très, très élémentaire. Chose qu'avec les orchestres peut se passer aussi. On a beaucoup entendu des harmonies fausses et de choses que c'est toute proportion gardée. Hein. Mais bon, le problème, il est lié à la qualité, tout simplement. Pas à la quantité, mais à la qualité. Donc, le travail de formation qui nous revient doit avoir cet objectif-là, de donner aux élèves le maximum de moyens. Et évidemment, on va tomber sur des élèves plus fertiles que d'autres pour développer les moyens qu'on leur donne. Parfois, c'est une question d'affinité entre prof et élève aussi. Un élève ne bourgeonne pas avec toi, mais avec un autre qui va bourgeonner, il faut être aussi capable de le voir, de l'envoyer à droite à gauche pour continuer à se former. Mais une chose qui m'est très importante, justement à cause de ce passé, c'est la question des esthétiques. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le répertoire, de quoi on doit parler quand on enseigne la direction, hein? Je pense qu'il y a évidemment l'histoire de la direction elle-même, l'histoire du bâton de Lully, que vous connaissez tous, là, qui a commencé à définir les rôles du chef d'orchestre, elle est relativement récente, les chantres, la manière de diriger les chantres, etc. Il y a toujours le rôle d'un meneur, dans la musique ancienne aussi, la musique traditionnelle. Mais quand on commence à parler vraiment du rôle du chef, on rentre dans une période déjà post-baroque, baroque classique, romantique, les grandes formations romantiques, première moitié du XXe siècle, et aujourd'hui, avec les ensembles, avec la musique contemporaine, avec des choses très complexes, des métriques alternées et modes de jeu complètement particuliers, où la figure du chef est absolument indispensable. Par contre, quand on va chanter une chanson de Brassens à plusieurs voix, ou même quand on va faire du jazz vocal, ou quand on va chanter un chant traditionnel basque, ce n'est pas la même technique. Ce n'est pas une musique qui est faite pour être battue comme un motet de Brahms ou un gradual de Bruckner. Ce n'est pas la même manière de faire. Et parfois, les gens se perdent beaucoup là-dedans et préfèrent dire « je ne touche pas à ça parce que je ne sais pas comment il faut faire ». Et moi, je pense que c'est une erreur. Il faut inventer la bonne manière de diriger ça. Il faut inventer la bonne manière de chanter à plusieurs voix une chose qui est chantée par une seule personne à l'origine, en retravaillant la prosodie à chaque refrain, à chaque nouveau couplet, en essayant de trouver un phrasé qui donne l'impression que ce n'est pas la répétition systématique des croches qui sont écrites sur une feuille de papier. C'est peut-être un peu trop spécifique, ce que je dis maintenant, mais j'introduis ici peut-être pour illustrer un peu mon rapport avec ces musiques traditionnelles, trois exemples de musique que j'amène du Brésil, en fait, qui sont de souches très différentes. Une, vous allez dire, c'est de la musique européenne, c'est un hommage rendu au grand maître du contrepoint, mais c'est quand même une messe de Villa-Lobos que j'ai enregistrée en 2000. Et je vous fais, elle ressemble un peu à la messe de Capelet, je mets notamment les Sanctus à trois voix, mais avec un type de vocalité que j'ai trouvé adéquate pour cette écriture-là, qui ressemble beaucoup à la vocalité de chanteurs de musique ancienne d'aujourd'hui. Hein. Donc je vous fais écouter un extrait. Ah. Voilà, c'est un exemple pour ceux qui ont écouté le concert de lundi. C'est impossible pour moi d'obtenir cette vocalité avec les chanteuses que j'ai à l'ensemble vocal du conservatoire, qui viennent toutes d'une école de chant lyrique qui vise vraiment les plateaux. Par contre, elles fournissent un autre type de vocalité très intéressante et très riche qui permet de faire un autre répertoire. Mais j'ai toujours été intéressé et attiré par la capacité, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de chanteur, c'est d'être malléable vocalement et de penser, par exemple, que les vibratos n'est pas une chose constitutive de la voix, mais un mode de jeu, comme un violoniste peut jouer lisse et peut jouer avec vibrato. Donc j'ai cherché avec cet ensemble que vous venez d'écouter, j'ai cherché à travailler avec les mêmes chanteuses, par exemple, sur un collectage fait de musique vraiment traditionnelle, autochtone brésilienne. Je vous fais écouter la version originale. Hein. Donc c'est un chant religieux, sacré, tout ça c'est de la musique sacrée. Hein. Ça c'est un collectage. Vous entendez Mena Yoda Mandare Waya Usare Waya, c'est un peu chantonné, un peu gribouillé. C'est comme ça qu'ils la pratiquent. C'est absolument sans aucun souci de justesse. Ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est qu'ils peuvent ressentir au moment de chanter ça. Donc c'est une musique complètement fonctionnelle, une musique rituelle, fonctionnelle, comme il y a dans tant de cultures. Et après, nous avons travaillé ensemble avec une compositrice et j'ai fait l'arrangement et on a fait cette version avec les mêmes chanteuses que vous avez entendues sur Villa Lobos. Ça, c'est le thème que vous avez entendu. Déjà avec une harmonisation beaucoup plus moderne, mais quand même. Avec un timbre très proche de la forêt, de Zahra, de singe. Coupe, c'est quelques extraits. Hein. Donc vous avez une dimension vraiment très européenne liée à la tradition jésuite, bénédictine, dominicaine, qui bon, est arrivée au Brésil avec un retard énorme. Il n'y avait pas Internet à l'époque, vous vous souvenez. Hein. Donc les traités et les partitions de Mozart et de Haydn ont été étudiés une centaine d'années pratiquement après l'écriture. Donc il y avait un grand décalage. La période baroque, qu'on appelle la période coloniale, n'était pas simultanée avec l'Europe. Il y avait le Brésil, c'est le seul cas dans l'histoire où la colonie est devenue métropole du jour au lendemain. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais les rois du Portugal, en fuyant Napoléon, ont débarqué à Rio avec toute la cour du jour au lendemain. Et là, on a rattrapé un siècle de tout, hein, de politique, d'économie et de musique. Hein. Donc il y a une histoire très particulière avec cet héritage européen. Mais avec l'arrivée des esclaves, parce que les Indiens ne comprenaient pas pourquoi il fallait travailler pour les autres. Ils préféraient mourir. Ils avaient tout à portée de main. Donc, il n'y avait pas la possibilité de rendre les Indiens esclaves, a été un massacre. Et ça n'a pas fonctionné. Et ils se sont retournés vers l'Afrique pour des raisons historiques. La traite, elle existait bien avant, déjà entre les Africains, l'Égypte. Vous savez ça, comment ça fonctionnait. Et ça, malheureusement pour l'histoire, mais très heureusement pour la musique, on a vu débarquer tout un peuple des Yoruba, du Dahomey, du Bénin, du Sénégalais, des Bantous, du Congo, donc une musique hyper riche. Et là, c'est le troisième triangle de la recette de base de ma culture, en fait. Et là, encore une fois, je ne vous montre pas les collectages parce qu'on n'aura pas le temps. Je prends un chant sacré également, parce que tout ça, c'est de la musique sacrée, en fin de compte. Hein. Je prends un chant sacré des traditions Yoruba, du Dahomey, de l'ancien Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui, hein, que j'ai, à partir de ça, à la manière de Bartok, j'ai écrit une pièce dessus qui s'appelle Oshala, c'est une divinité de leur panthéon. Hein. Et je vous fais écouter une version avec les mêmes chanteurs, toujours, en cherchant des vocalités différentes encore. Hein. Là, il y a des percussions aussi. C'est une partition qui a été éditée chez 4 éditeurs différents en France et que vous avez peut-être déjà entendu. Kerjoie a édité, je l'aime beaucoup cette partition. Et c'est une musique très très ancienne en fait. Hein, et elle a une force d'évocation très forte. C'est un pouvoir de prière à la manière africaine, bien entendu, mais c'est une sorte de mantra, quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui fait monter, qui fait monter. Donc ça, par exemple, ça fait partie d'une démarche que j'ai faite de monter un programme de musique sacrée dans ce sens large, en fait. De ne pas prendre de musique sacrée européenne ou de musique sacrée, mais élaborer un répertoire de musique sacrée de toutes ces traditions et de développer des techniques de direction pour que le chef de chœur puisse aborder ces différentes esthétiques avec une direction qui est juste. On a travaillé sur les Carmina Burana un week-end fascinant récemment pour le concert qui va être donné le 27 prochain. Et là, j'ai partagé avec les gens qui étaient dans ce week-end un peu de choses que j'ai adaptées pour ma technique d'enseignement de direction qui viennent d'une écriture corporelle, de battre les schémas de mesure avec les pieds, de danser un peu le schéma. Oui.
Si tu veux bien le montrer,
ah parce que pourquoi pas.
C'était vraiment très intéressant. Et je pense que, justement, en France, nous ne connaissons pas du tout ce travail de direction par le corps. On travaille beaucoup les bras, mais c'était vraiment passionnant. Vous allez voir comme ça peut être très efficace.
Un personnage de la littérature brésilienne du XXe siècle s'appelle Macunaíma, qui était, c'est un peu violent comme image, mais j'aime beaucoup parce que ça désigne vraiment la culture moderniste du Brésil des années 20. Macunaíma, c'était un petit noir qui était cannibale, qui mangeait de la viande humaine. C'est complètement kafkien, hein, comme histoire. Hein. Ça se passe au début du XXe siècle. Et surtout que c'était de manger les plus d'ethnies différentes. Il voulait manger des Chinois. Et après, il régurgitait. Hein. Et c'est avec ça qu'il créait la culture brésilienne, en fait. C'est très violent comme image. Mais en gros, il s'agit de ça, en fait. La capacité qu'on a d'absorber, de se nourrir pour sécréter une autre chose. Après, l'image, elle est grotesque et c'est pour ça qu'elle marque aussi. Hein. Je la garde avec humour, mais en même temps, je pense qu'elle est violente, pas pour rien, parce que c'est quand même une culture très violente à la base, avec toutes ces confrontations, toutes ces dominations, les histoires d'imposition culturelle, etc. Enfin, on a parlé un peu de vocalité dans ma tradition, mais ça, aujourd'hui, dans la pratique vocale, l'enseignement de la direction de chœur, on doit tenir compte, là, c'était vraiment une programmation brillante qui a été mise en place pendant la semaine foniale, avec du gospel, avec du beatbox, avec des chœurs de rock. Il y a évidemment des esthétiques traditionnelles, deux chœurs de musique basque, de musique corse. Il y a eu les Africains, les Allemands. On a eu la sonorité du groupe vocal anglais dans la plus pure tradition avec Voices 8. Et toutes ces choses-là, elles exigent attention, en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas, sincèrement, je ne pense pas qu'on doit penser une pratique vocale exclusivement axée sur une esthétique. C'est former les élèves à aller droit contre le mur. Il y a une place pour un chanteur lyrique génial, parmi je ne sais pas combien qui vont avoir ces rêves-là. Et si on va à Oslo, entendre le chœur de chambre d'Oslo, on sait qu'ils sont tous chanteurs lyriques, ou même Voices 8. Ils ont tous montré qu'ils pouvaient chanter des rôles, faire la Reine de la Nuit, ou chanter, je ne sais pas, Boris Godounov avec la voix de basse qu'il avait, et en même temps, ils étaient en train de chanter en voix de sifflet tout juste, sans vibrato. Hein. Ça, c'est fondamental que ce soit compris, parce que c'est l'avenir du métier de chanteur et des chefs aussi. Les chefs, ils doivent être capables d'embrasser toutes ces esthétiques le plus possible, sans être dispersés. Attention. Hein. Il faut laisser un peu de temps, mais je voulais quand même vous parler de... Évidemment, dans ce qui se fait depuis une trentaine d'années, il y a une sonorité particulière qui a été complètement adoptée et actée, qui est la sonorité des chanteurs baroques, en fait. Hein. On dit les baroqueux, ceux qui pratiquent la musique baroque, qui n'est pas loin actuellement, après les arts florissants, on va dire, de techniques lyriques, mais d'une manière plus allégée. Ce n'est pas de voix large, mais quand même avec une technique vocale assez proche de la technique lyrique. Mais on a quand même tous les groupes vocaux de jazz qui ont fleuri dans le monde entier. Il y a de bons groupes vocaux de jazz en France, le Voice Messengers, il y a eu le Double Six, il y a eu... Après, il y a les Swingle Singers, High Lows, tous ces groupes qu'on connaît. Ça, c'est une musique qui peut être dirigé. Quand Berio il écrit sa Symphonia, par exemple, il pense aux Swingle Singers au milieu d'orchestre symphonique. Il y a besoin de chefs. Il y a des groupes, il y a un groupe qui s'appelle Synergy, un groupe anglais qui fait beaucoup de musique contemporaine. Ils sont 12. Ils sont capables de chanter n'importe quel arrangement de jazz exactement dans les styles comme il faut. Et en même temps, ce sont des as de musique contemporaine qui font tout, les cris de l'onde de Berio, tout ce que les Ligeti, toutes les pièces les plus radicales possibles. Donc je pense que tout ça, même les rock et les métal, récemment par exemple, j'étais dans un colloque autour du son du chœur et on a eu une conférence avec un phoniatre qui recherchait le fonctionnement des chanteurs de hard rock. Qui font exactement ça. Rien que d'y penser. Et on peut se dire que sa voix ne va pas durer
très longtemps.
20 minutes. Et ces gens, ils font des tournées de 30 dates, 40 dates en 6 mois et rien ne se passe. Parce qu'ils ont développé une technique pour le faire absolument maîtriser. Donc, quand on dit ça, c'est s'abîmer la voix, ça, ce n'est pas savoir faire. Attention, aujourd'hui, on développe des techniques pour tout. les gens qui font du yodel, vous allez voir sur Internet la page du yodel, de l'association suisse du yodel, c'est tout expliqué, la technique, comment il faut faire toute la laryngoscopie, on voit tous les détails. Donc toutes ces esthétiques, effectivement, ont de plus en plus de place. Et je voulais finir avec deux petits extraits d'un autre type de rapprochement qui me semble important. Et en plus, c'est un concert que je vais redonner le 25 août dans le cadre du festival Symphonia en Périgord, pas loin d'ici. C'est les 25 ans du festival, avec l'ensemble Poésis, qui est un ensemble spécialisé dans la musique du baroque du 17e. Donc ce sont des pièces, ce sont des madrigaux de Sigismondo d'India, qui était un contemporain de Monteverdi, moins connu, mais aussi brillant. Mise en miroir avec un compositeur contemporain argentin, Daniel D'Adamo. Donc ce sont encore d'autres types d'approchements, ce coup-ci à travers le temps, pas à travers les différentes ethnies ou strates sociales d'une même période. Mais là, je vous fais écouter par exemple un exemple de la musique de Dindia, qui a un madrigal à une seule voix. C'est ce disque ici, si vous souhaitez le voir. Là, c'est Cristiana Presutti, la mezzo, qui fait partie de l'ensemble. Donc c'est tout un programme où on met à miroir cette écriture-là, avec cette écriture ici, avec les mêmes instruments, lutherie ancienne, instrument d'époque, harpe triple, viol de gambe, lyrone, flûte traverso, flûte renaissance, et trois chanteurs spécialisés dans ce répertoire. J'ai invité deux jeunes chanteurs brillants ici du conservatoire, ici, Daniel Monnier et Stéphane Victor. Et là, la réponse, par exemple, à ces madrigaux, à ces madrigales, est celui-là.
Al microfono con la prepotente incertezza del soave poeta. Quel mio
c'è un testo di Pasolini
omonimo che ancora ha il mio nome.
Donc une utilisation de ces instruments fragiles avec la difficulté d'intonation,
des
écritures complètement modernes. Voilà, c'est un type de démarche qui me séduit beaucoup. J'ai travaillé beaucoup dans cette optique avec l'ensemble Philidor à Tours, avec d'autres ensembles spécialisés dans la lutherie ancienne, avec des ponts faits avec des compositeurs de musique contemporaine, utilisant les fragilités des instruments, mais aussi les manières de chanter et les tempéraments. Je ne sais pas si vous voyez la manière d'accorder les gammes pour chanter la musique de cette époque-là. Donc là, on est à mésotonique adoucie, ce sont des tempéraments avec une justesse particulière. Voilà, ce sont d'autres ponts qui m'intéressent beaucoup, pour que vous connaissiez un peu le fond de ma motivation musicale, ce qui ne m'empêche absolument pas d'avoir un plaisir immense à diriger un Carmina Burana comme celui qu'on va faire le 27 juin, ou de faire un programme avec du Britten, du Brahms, du Stravinsky, comme on a fait en début de concert. C'est simplement de cette optique-là que je voulais parler, de la transversalité dans le sens noble et pas dans le sens un peu vulgarisé qu'on entend aujourd'hui, mais vraiment de penser qu'il y a des ponts à créer entre les choses, dans le but de renouveler, dans le but de donner plus de billes aux gens pour qu'ils puissent mieux vivre leur pratique, l'exercice, et mieux s'équiper aussi pour faire face au marché de demain et aux exigences de demain, en fait.
Alors moi, je te rejoins évidemment sur tous ces aspects. aller, sans aller peut-être aussi loin dans la recherche que ce que tu l'as fait et ce que tu le fais encore, mais je pense qu'il est très important, effectivement, de se nourrir de différents styles. La musique spécialisée, les musiciens spécialisés, évidemment, nous ont aidés à approfondir des styles, notamment au moment où la musique baroque s'est développée, avec justement, tu parlais tout à l'heure de William Christie, Herweg et bien d'autres grands patrons, je dirais, de ce renouveau de la musique baroque. Parce que voilà, parce qu'ils ont fait des recherches qui nous servent énormément. Mais on n'est pas obligé pour pouvoir interpréter cette musique maintenant de ne faire que celle-ci. Et je crois qu'au contraire, de passer d'un Mozart qui va demander à la fois de la délicatesse, de la puissance, de la grâce, et en même temps de passer à un Monteverdi, puis après à un Brahms ou à la musique contemporaine, comme tu le disais, chaque fois on aborde le nouveau style qu'on aborde avec la richesse qu'on a emmagasinée dans le style précédent. Alors c'est peut-être un peu plus difficile, un peu plus délicat, il faut changer d'esthétique, il faut changer sa mentalité,
mais vocalité aussi.
La vocalité, au niveau technique aussi, mais... sur le plan de la nourriture spirituelle, c'est évidemment fantastique. Et à chaque fois, quand on aborde un Monteverdi après avoir fait un Brahms, ça demande peut-être un petit moment pour pouvoir bien s'adapter, se recadrer. Mais après, je pense qu'il est meilleur. Et inversement, bien sûr.
Il ne faut pas oublier, évidemment, dans le cas de Brahms, ce n'était pas si simple, mais depuis la moitié du XXe siècle, les compositeurs, ils ont tous accès à toute cette histoire de la musique. Donc la musique, elle est aussi marquée par tout ça. Donc les interprètes, ils doivent tenir compte de tout ça aussi. C'est très important. On peut pas être sûr que Brahms connaissait bien la musique de Bach parce qu'on ne jouait pas de musique historique à cette époque-là de la même manière qu'on joue aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que toute l'histoire de la musique est à notre disposition depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. On peut tout écouter. En fait.
Mais il travaillait au moins sur l'écriture. Berlioz a beaucoup travaillé aussi sur les manuscrits, que ce soit de Bach ou des anciens, pareil pour Gounod, qui est à la chapelle Sixtine, avait travaillé sur les manuscrits de Bach et qui a écrit dans son morse un grand choral à 8 voix, tout à fait dans le style baroque. Donc effectivement, se nourrir de toutes les musiques, je pense que c'est essentiel. Écoutez, je crois qu'on peut dire un grand bravo, un grand merci à Eduardo, vraiment, pour tout ce qu'il nous a apporté.